L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'en aller vers l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Oui, amen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer du temps à voir ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Et je peux vous partager que le Seigneur a une parole fraîche pour vous. C'est une parole que même j'ai reçue à 4h50 ce matin. Vous savez, on a eu le mariage de Sylvie et Alain hier soir. On s'est couché, moi je me suis couché assez tard. Et puis il y en a aussi qui sont ici qui se sont couchés tard. Mais on enlève un petit peu la fatigue et on reçoit ce que Dieu a à nous partager. Et je peux vous dire que quand je me suis réveillé à 4h50, j'avais prévu de me réveiller un petit peu plus tard. Mais le Seigneur m'a réveillé. J'ai eu un songe cette nuit. Et à 4h50, je me suis réveillé d'un seul coup. Et je savais là, que c'était un message de la part de Dieu. Et je crois, comme vous savez, je m'en vais au ralliement à Ottawa. Je pense que ce n'est pas simplement pour l'Église locale, mais ça s'adresse aussi à la nation. Et je priais justement, Seigneur, montre-moi des choses que tu veux que je communique aux Canadiens, parce que comme vous savez, ça va être télédiffusé et je crois que ça va être important de vraiment avoir la parole de l'heure, ce que Dieu veut que je partage. Et ça, c'est, en tout cas, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné ce matin? C'est concernant l'importance d'avoir le focus sur Dieu. Et je vais en parler un petit peu plus tard. Mais premièrement, on va juste commencer avec le texte dans Romains chapitre 4. Et on va aller au verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Et on va prier encore une fois. Seigneur Dieu, on veut vraiment te donner nos oreilles ce matin. Qu'on puisse, Seigneur, écouter, entendre, Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. On rend toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu es parmi nous en ce moment. On te remercie, Seigneur, parce que tu as tes anges aussi qui sont relâchés dans cette place pour faire du ministère auprès de ceux qui vont hériter le salut. On te remercie, Seigneur, parce que ta présence est ici d'une façon tangible pour faire des choses, pour changer des vies, pour transformer des cœurs, pour libérer des captifs, Seigneur Jésus. On te remercie, Seigneur, pour la puissance de ta parole qui s'en va partout en Europe, en France en ce moment, des gens partout à travers le Canada qui écoutent ce message. On te remercie, Seigneur, parce que ton message va de l'avant et on voit des exaucements à la prière, on voit des vies changer. On le prie au nom de Jésus et pour ta gloire ce matin. Amen. Alors, le message ce matin s'intitule « Vivre pleinement persuadé ». On doit être persuadé dans notre foi, avoir cette conviction dans nos que qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire, que c'est véritablement sa volonté et qu'on marche avec cette conviction. Et peut-être aujourd'hui, il y a des impossibilités devant vous. Vous savez, on vit encore sur la terre, même si on est des enfants de Dieu, on a quand même des choses, des fois, dans le naturel, où on pourrait dire, c'est impossible cette chose devant moi. Il y a comme cette muraille-là, et puis ça pourrait sembler impossible à franchir. Mais vous savez, avec Dieu, ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit est possible. Croyez-vous ça? Si quelqu'un vous dit, vous êtes diagnostiqué avec une maladie, c'est impossible que vous soyez guéri, moi je peux vous dire que Dieu vous dit, c'est possible. Et on est témoin de la bonté de Dieu dans nos vies. Mon épouse, vous savez, il y a 10 ans, elle a été diagnostiquée avec une maladie. Et puis nous, on a décidé qu'on n'était pas pour accepter le rapport médical dans le sens que ce n'était pas le dernier mot. Même si les médecins disaient « il n'y a pas de solution », nous, on connaît celui qui a toutes les solutions possibles. Son nom est Jésus. Et même on avait reçu une parole prophétique de Eugene May qui avait dit, sans savoir la situation de mon épouse, il avait dit ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit est possible. Et nous, on croit pour vous aujourd'hui. S'il y a des impossibilités, on croit, comme dans Matthieu 19, 26, ça dit, pour Dieu, toutes choses sont possibles. Donc, il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu. Même si dans votre tête, vous voyez des choses et vous vous dites, c'est impossible, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Mais quelles sont les impossibilités dans vos vies? Peut-être c'est au niveau de vos finances, peut-être c'est au niveau de votre famille, peut-être vous avez d'autres choses, moi, que je ne connais pas, mais Dieu connaît ces choses-là et Dieu veut mettre sa main dans ces choses-là. Amen. Donc, dans Romains, chapitre 4, verset 17, commençons là, on va lire ensemble en parlant d'Abraham. Ça dit ici, « Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. et qui, compte espérance, crut avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta semence. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps, déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. Or, ce n'est pas pour lui seul que ça a été écrit comme cela, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Vous voyez ici, vous connaissez l'histoire d'Abraham, comment c'était un homme âgé, et Dieu y avait promis. Son nom, c'était Abraham. Et Dieu y avait dit, tu vas devenir le père d'une grande nation. Et pourtant, il était âgé, son épouse était très âgée, et même passé le point, le stade dans sa vie où elle pouvait porter des enfants. Mais pourtant, Abraham a cru Dieu, même si c'était impossible. Humainement parlant, c'était impossible. Hein? Rares sont ceux, les femmes, là, à dépasser l'âge de 75 ans, qui vont avoir des enfants. Hein? Mais avec Dieu, quand les êtres humains disent « c'est impossible », Dieu dit « c'est possible ». Et puis, en tout cas, moi, ça me réjouit parce que des fois, on peut avoir toutes sortes de choses devant nous. On se dit « c'est impossible, c'est un problème ». Et des fois, vous savez, quand il y a un rideau noir devant nous, on ne voit pas l'autre côté, on ne voit pas la lumière qui brille de l'autre côté. Mais il faut mettre nos lumières de foi, ou nos lunettes plutôt de foi. Quand on met ces lunettes-là de la foi, on voit à travers ce rideau-là. On peut voir la gloire de Dieu qui resplendit de l'autre côté. Et moi, c'est là où je veux vivre, toujours de l'autre côté, parce que Dieu est de l'autre côté également. Mais même si on est devant ce cadre-là, ou devant cette muraille-là, on sait que Dieu est avec nous. Toutes choses sont possibles, mais c'est toujours une question de choix. Vous savez, dans Deutéronome, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous partager une chose que le Seigneur m'a montré cette nuit. J'ai intitulé ça « Pleine attention ». Quand je me suis réveillé à 4h50 ce matin, j'ai eu un rêve, je ne vous expliquerai pas tout le rêve, mais dans le rêve, qu'est-ce que ça me disait? C'est qu'il y avait, la personne dans le rêve a dit clairement, il y a un esprit de Judas. Il y a un esprit de Judas. Et c'est quoi ça? C'est un esprit de trahison. Et la personne disait à l'autre personne, un autre croyant, okay, cette personne chrétienne parlait à un autre croyant et disait dans son rêve, « Toutes ces années-là que tu m'as parlé de Satan et l'œuvre de Satan dans ma vie. » C'était ça le rêve. Mais on se trahit soi-même parce que la personne a réalisé qu'en parlant toujours de Satan et en parlant de l'œuvre de Satan dans le monde, toutes les choses négatives dans le monde, on se trahit soi-même. On se trahit soi-même par un esprit comme ça. C'est un esprit de Judas, mais pas nécessairement contre une autre personne, mais contre soi-même. Je ne sais pas si vous me suivez, mais quand je me suis réveillé ce matin, là, à 4h50, j'ai médité là-dessus sur le rêve, parce que vous savez, des fois, on a des rêves, des songes, on peut les oublier. Mais quand je me suis réveillé, je voulais vraiment là, m'en rappeler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai médité pendant ce temps-là, j'ai vu l'heure, 4h50, et pendant, on dirait 10 minutes, j'ai médité là-dessus. Quand j'ai ouvert les yeux, il était 4h50 encore. Puis là, j'ai dit, comment est-ce que c'est possible? J'ai passé tout ce temps-là à méditer sur ce verset-là. Comment est-ce que c'est possible que l'heure n'a pas changé? Mais pourtant, je ne sais pas, j'étais dans une capsule de temps, je ne comprends pas. Mais je crois vraiment que le Seigneur voulait nous dire des choses ce matin qui nous appellent à avoir une pleine attention sur qui il est vraiment. Parce que des fois, on se préoccupe de plein d'affaires. On se préoccupe des impossibilités ou même de l'œuvre de Satan. Et cette personne, dans mon rêve, avait été préoccupée pendant longtemps de l'œuvre de Satan. Et ça peut sembler spécial ce matin, et j'avoue, c'est spécial. Mais des fois, on peut se préoccuper de nos problèmes, des personnes autour de nous qui nous dérangent, et même de notre passé. Des fois, on peut se préoccuper et s'empêcher d'aller de l'avant parce qu'on est préoccupé avec toutes sortes de pensées sur le passé et comment on doit déterrer les morts. Je ne sais pas si vous connaissez des chrétiens qui sont toujours en train de déterrer les morts, qui sont toujours dans leur passé. Ils parlent toujours des choses d'autrefois, des choses négatives d'autrefois. Mais Dieu, il veut qu'on marche dans une nouvelle vie. Dieu veut nous libérer, Dieu veut nous donner la joie dans nos vies. Et c'était, dans ce rêve-là, j'ai compris, c'était une auto-séduction, que les gens se séduisaient eux-autres-mêmes par leurs pensées. Les gens se séduisaient par toutes sortes de raisonnements humains. Mais Dieu nous appelle à être rafraîchis, à être transformés et d'avoir un bon focus dans notre vie. D'enlever le mauvais focus qui nous empêche d'aller de l'avant, mais d'avoir notre attention vraiment sur Jésus-Christ. Et c'est ça que je voulais vous partager ce matin. Voyez l'image de Jésus. Dieu nous appelle à avoir nos yeux toujours fixés sur Jésus. Jamais sur le problème, jamais sur l'impossibilité. Si vous méditez toujours sur l'impossibilité, vous allez nourrir votre foi dans l'impossibilité. Mais si vous nourrissez votre foi dans ce que Dieu dit, sur le possible, là, vous commencez à bâtir votre foi. Mais si on garde nos yeux sur l'impossible, on va marcher dans l'impossibilité. Ici, vous voyez la jeune fille qui est là. Je vous montre cette image-là parce que vraiment, c'est ça qui est venu ce matin de bonne heure dans la prière ou dans mon sommeil plutôt. Et après, comme je priais, ce souvenir m'est venu parce que cette jeune fille-là, quand j'étais au Miracle Channel, est venue passer une entrevue. Et à l'âge de 4 ans, elle a commencé à avoir des visions de la part de Dieu. Et l'image que vous voyez là, la peinture, là, cette toile-là, c'est elle qui l'a peint. Elle a peut-être 10-12 ans aujourd'hui, là, mais elle a commencé à l'âge de 4 ans à faire des dessins, des choses qu'elle recevait en vision. Et qu'est-ce qui est vraiment remarquable, je vous explique ça, là, qu'est-ce qui est vraiment remarquable de cette image-là, c'est que cette jeune fille-là a été élevée par des Russes, c'est une Russe elle-même, sauf elle est née aux États-Unis, mais cette petite fille-là qui s'appelle Akian, une Russe, a été élevée à ne pas croire en Dieu. Et ses parents lui disaient que Dieu n'existait pas. C'était une famille athée. Mais pourtant, cette jeune fille-là était ravie en esprit, voyait des choses, elle voit encore des choses dans l'au-delà. Et puis là, quand elle revenait à elle-même, elle se mettait à peindre toutes sortes d'affaires. Entre autres, elle a peinturé ça. Et ça, elle a dit, c'est le visage de Jésus qu'elle avait vu en vision. Moi, je trouve ça remarquable. Je vais vous dire d'autres choses. Donc, à l'âge de 4 ans, elle a commencé à faire des dessins. À l'âge de 6 ans, elle a commencé à faire des toiles. Et je vais vous montrer d'autres choses ici, là. Elle a fait cette toile-là également. Vraiment, c'est remarquable. Et le texte que je voulais vous attirer votre attention ici, ça dit « Écoute, ma fille, regarde et sois bien attentive. Ne pense plus à ton peuple ni à la famille de ton père. Que le roi soit amoureux de ta beauté. » C'est lui qui est désormais ton Seigneur. Incline-toi devant lui. » Et vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et ce matin, ce n'était pas prévu avant hier soir même, que j'étais pour parler de ce que je vous parle aujourd'hui en ce moment. Mais qu'est-ce qui est vraiment venu très fort dans mon cœur ce matin, comme je priais, ce verset-là est venu. « Ne pense plus à ton peuple ni à la famille de ton père. » Mais ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire des fois on peut avoir nos pensées captives à notre passé. Voyez, écoute ma fille, nous sommes appelés l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes appelés l'épouse de Christ. C'est, écoute ma fille, regarde et sois bien attentive. Cette épouse qui se prépare à rencontrer le roi. Ici, ça nous parle exactement de ça. Une femme qui se préparait à rencontrer le roi. Et Dieu lui disait dans les psaumes 45 ici, ne pense plus à ton peuple ni à la famille de ton père. Parce que humainement parlant, une jeune fille qui va devenir princesse, admettons, qui se prépare à rencontrer le roi, bien, ses pensées pourraient sûrement être comme dirigées vers sa famille, son peuple, tout ça, et s'ennuyer. Hein, des fois, on peut être comme ça. Ça dit, ne pense plus à ton peuple, ni à la famille de ton père. Et dans d'autres versions, ça dit, oublie ton peuple. Que le roi soit amoureux de toi, c'est lui qui est désormais ton Seigneur. Incline-toi devant lui, en voulant dire prosterne-toi devant ton roi. Ici, ce que Dieu est en train de nous dire dans ce texte-là, c'est que Dieu se cherche des gens qui vont avoir un focus uniquement sur Jésus-Christ. Puis c'est venu très fort ce matin, comme je priais, c'est vraiment le message que Dieu veut qu'on comprenne. Il se cherche des gens qui vont avoir un focus vraiment sur Jésus-Christ. Et qu'on garde nos pensées aussi toujours captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Je vais vous inviter à tourner dans un autre texte, dans Philippiens chapitre 4. Vous savez, c'est impossible de ne pas marcher dans la victoire si on suit vraiment la parole de Dieu. Dans Philippiens chapitre 4 et le verset 8, il est écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Voyez-vous, quand on pense le contraire de ces choses-là, on est en train de se nourrir pour ne pas vivre dans la victoire, pour vivre dans la défaite, pour être découragé. Mais ici, ça nous dit de garder toujours nos pensées dans les choses de Dieu, n'est-ce pas? Philippiens 4, 8. Et si on pense comme ça, on va parler comme ça également. On va parler comme Dieu parle. On se remplit des pensées de Dieu et on parle comme Dieu parle. Et Dieu nous appelle vraiment à cette place-là dans notre expérience chrétienne, avoir une pleine attention sur les choses de Dieu, avoir notre focus. Parce que dans la période dans laquelle nous entrons maintenant, je crois vraiment, c'est que il y a cet esprit de Judas, un esprit de trahison où on peut se trahir soi-même en ayant un mauvais focus dans notre vie. Si vous avez un mauvais focus, votre vie va être mal dirigée. C'est vrai ça. Si vous avez une chose négative, par exemple, et toute votre énergie est sur cette chose-là, vous allez complètement faire fausse route. Mais Dieu, aujourd'hui, est en train de dire à l'Église, ici, l'Église de Granby, est en train de dire... On doit avoir notre focus sur Jésus-Christ. On doit revenir à cette place où on garde nos yeux fixés toujours sur lui, qu'on ne sera pas distrait, qu'on va toujours garder nos yeux sur lui, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez, Dieu, qu'est-ce qu'il recherche? C'est des gens qui sont vraiment amoureux de Dieu. Et si vous êtes là aujourd'hui et vous vous dites, Joël, j'aime Dieu, mais je réalise que je ne suis pas bouillant dans mon cœur. Vous savez, vous ne pouvez pas l'inventer, cet amour-là. Vous ne pouvez pas inventer une passion pour Dieu que vous n'avez pas. Mais c'est une des choses que Dieu peut faire. Dieu peut prendre votre prière qui dit, « Seigneur, je veux avoir plus d'amour pour toi. » Et savez-vous, si vous priez comme ça, « Seigneur, je veux plus d'amour pour toi », Dieu va honorer votre prière. Dieu va vous donner plus d'amour pour lui. Et ce que je vous dis là, hier soir, on était au mariage et on était assis avec Martine Grenier. Peut-être certains d'entre vous, vous la connaissez. C'est une chanteuse, elle chante super bien. Elle a chanté là-bas aux noces. Et puis, on a eu la chance de jaser avec elle. Puis elle me racontait comment... Elle a reçu un amour pour Dieu surnaturel parce qu'elle avait justement demandé à Dieu pour plus de son amour, qu'elle tombe en amour davantage avec Dieu. Et moi, je crois, si on est passionné pour Dieu, on a un amour pour lui, notre focus va toujours demeurer sur lui. Que des gens quittent, que des gens tombent à droite, à gauche, peu importe, si nos yeux demeurent toujours sur Jésus-Christ, on va toujours marcher dans la victoire, on va toujours être heureux et on va se rendre au ciel n'ayant pas manqué rien des choses que Dieu avait en réserve pour nous. Amen, croyez-vous ça? Et Dieu nous dit dans sa parole, ça nous dit, « L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas ce texte-là. Je me souviens, Oprah Winfrey a parlé à la télévision et puis elle dit, « Je ne peux pas servir le Dieu jaloux. » Elle dit, comment est-ce que je pourrais servir quelqu'un qui est jaloux de mon auto, jaloux de mes possessions? Mais elle a mal compris, Oprah. Dieu ne disait pas qu'il était jaloux de nos choses. Dieu est jaloux pour nous. Ça veut dire qu'il veut qu'on soit exclusif à lui. Que toute notre vie soit dédiée à Jésus. C'est ça qu'il veut dire. Je suis jaloux pour vous. Je veux vous avoir vraiment entièrement à moi. Que votre focus soit vraiment centré sur moi. Qu'on ait les regards sur le Seigneur Jésus en tout temps. Et quand on arrive à cette place-là, il n'y a rien au monde que le Seigneur peut nous demander à faire qu'on va dire non. On ne va jamais dire non au Seigneur. On ne trouvera pas le travail que Dieu nous demande à faire. On ne trouvera pas ça lourd parce qu'on est en amour avec Dieu. On veut en faire plus même parce qu'on a ce désir bouillant dans notre cœur. Amen. Et moi, je crois que le Seigneur veut nous emmener à cette place. Et si j'ai rêvé cette nuit à cette chose, moi, je crois que le Seigneur veut nous réveiller, qu'on garde toujours notre focus sur lui. Et peut-être vous vous dites, Joël, je l'ai mon focus sur Dieu. Et ça se peut que c'est vrai que vous l'avez déjà. Mais est-ce que ça se peut que Dieu veut nous parler? Et même moi, là, si Dieu m'a donné ce rêve-là, c'est pour moi que je garde toujours mon focus sur lui, que je garde toujours les yeux sur lui. Et que je ne laisse pas rien m'empêcher et qu'il n'y ait rien, aucune personne, aucun problème ou même le passé dicter mon futur. Amen. Alors moi, je crois que c'est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui qu'on reçoive cette révélation de la jalousie de Dieu. Et habituellement, quand on parle de jalousie, c'est négatif, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est jaloux, on dit « Ah, c'est pas correct, la personne est jalouse que je me suis acheté une nouvelle auto, par exemple. » Mais dans ce contexte-ci, c'est quelque chose de bien, parce que Dieu est parfait. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Alors, comme je disais tantôt, tout ce que Dieu veut faire pour nous, c'est toujours, toujours une question de choix. C'est toujours une question de choix. Dieu voudrait bénir ses enfants. Dieu veut faire tellement des grandes choses dans nos vies, mais c'est nous qui décidons si nous recevons ces choses-là. Et dans la parole de Dieu, je vous invite à tourner dans Deutéronome, chapitre 30 et le verset 19. Il est écrit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Voilà deux témoins qui sont là. Dieu dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu nous appelle à faire un choix, la vie ou la mort. C'est simple, mais il n'y a pas entre les deux. C'est la vie ou la mort. On choisit soit d'être maudit ou d'être béni. Et heureusement, nous avons cette possibilité de choisir qu'est-ce que nous allons recevoir dans nos vies. Moi, je choisis à tous les jours, je choisis d'être béni de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je choisis de marcher dans la bénédiction de Dieu. Et je suis pleinement persuadé que les promesses que Dieu a déclarées sur ma vie, qu'ils vont se réaliser. Et pour vous, je ne sais pas, vous avez peut-être reçu des paroles prophétiques, peut-être vous avez pris des versets de la parole de Dieu vous concernant, et peut-être vous avez été chambranlant, peut-être vous avez perdu votre focus pendant un temps, et vous avez dit, ah bien, il y a eu telle promesse sur ma vie qui a été déclarée, mais là, j'y crois plus. Mais Dieu vous rappelle aujourd'hui et vous dit, revenez à cette place de foi, revenez à cette place de confiance où vous êtes pleinement persuadé que ce que Dieu a dit à votre sujet, qu'il va le réaliser. Moi, je crois dans le Dieu du surnaturel aujourd'hui. Moi, je crois à ce Dieu qui décrète une chose et elle s'accomplit. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, il va le réaliser. Que ce soit évident ou non, que ce soit peut-être douteux, il y a des gens qui peuvent douter sur votre vie, ou peut-être, je ne sais pas, vous avez même reçu des paroles contraires à ce que vous avez reçu comme paroles prophétiques sur votre vie. Peu importe ce que les gens peuvent dire, qu'est-ce qui est important, c'est ce que Dieu dit à votre sujet. Amen. Alors, il faut faire le choix aujourd'hui. Heureusement, ce n'est pas Dieu qui choisit, ah, lui, je vais le bénir, lui, je vais le maudire. Vous savez, il y a des églises qui croient ça. Ce n'est pas une surprise pour vous, mais il y a des églises littéralement qui croient que Dieu en choisit. Toi, tu vas venir au ciel, toi, tu vas aller en enfer. Il y a des églises comme ça, et même j'ai été dans un cours de séminaire où le professeur enseignait cette chose-là, comment Dieu en avait choisi pour aller au ciel et comment il y en avait d'autres choisis pour aller brûler en enfer. Et moi, j'ai parlé d'Adam et Ève. Vous savez, Adam et Ève, ils ont eu un choix, n'est-ce pas? Ces gens-là, Adam et Ève, ont eu un choix. Comment ça, tout d'un coup, on aurait perdu ce choix-là de la vie ou la mort? Et là, le professeur, il dit, ben, on ne parle pas de ça tout de suite. Il ne voulait pas qu'on en parle. Mais moi, je crois qu'il faut revenir toujours au début. Il faut revenir à la Genèse et voir ce que Dieu en disait. Ils avaient le choix. On a toujours le choix aujourd'hui. Si on veut être béni, si on veut avoir la main de Dieu dans nos vies d'une façon vraiment active, c'est à nous de le choisir. Mais il faut avoir cette conviction dans notre cœur que peu importe les circonstances, peu importe les vents adverses dans nos vies, on va y croire. Amen. On va y croire, on va être pleinement persuadé au nom de Jésus. Et une autre chose qu'on doit faire, on doit comprendre que la parole de Dieu, c'est l'autorité finale sur notre vie. Si vous êtes malade dans votre corps, par exemple, vous avez été diagnostiqué avec une maladie, peu importe, vous devez avoir la conviction que ce que Dieu a dit à votre sujet est vrai. Tout comme mon épouse Mathilde, je peux peut-être le témoigner, pendant 10 ans, Mathilde allait faire des... Elle se faisait suivre par un médecin et puis elle avait des problèmes dans son estomac avec des choses anormales. Et qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, on est allé chez le médecin pour avoir un rendez-vous et la seule chose qu'il pouvait trouver, c'était des cicatrices. Et puis c'est la première fois en 10 ans. Mais ça fait 10 ans qu'on se bat par la foi avec le rapport humain et on a décidé de choisir le rapport divin. Quand elle a eu la diagnostic et elle s'est fait dire que c'était incurable, nous, on n'a pas accepté ça. On a dit, on va croire ce que Dieu dit. Par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Ça, c'est ce que Dieu dit au sujet de mon épouse. Par ses meurtrissures, elle a été guérie il y a 2000 ans. C'est de quoi qui lui appartient? La guérison, ça lui appartient. Alors, on a décidé de croire Dieu. Et là, en se faisant suivre par les médecins, là, ils ont vu, n'y a plus rien d'actif, c'est juste des cicatrices. Et on ose même croire que Dieu va changer ces cicatrices-là avec une nouvelle peau. Nous, on veut des intestins flambant neufs. Hein, on croit qu'il y en a des surplus au ciel, que Dieu est capable de faire un transfert et tout changer ça. C'est ça qu'on veut. Mais il faut vraiment croire que l'autorité de la parole de Dieu, c'est vraiment l'autorité finale dans nos vies. Parce que si on est chambranlant, puis « Ah ben Dieu dit ça, mais ma réalité dit autrement. Hein? » Il faut avoir vraiment cette croyance-là, et c'est la résolution officielle. La parole de Dieu, c'est notre autorité finale. Et vous savez, des fois, juste une parole de Dieu peut changer votre vie pour toujours. Je me souviens, moi, quand je faisais des clips à la télévision, il y avait pendant les publicités, je faisais des clips, et puis je recevais des courriels des téléspectateurs, des fois, qui disaient « Tu sais, tu as dit une telle chose. » Et puis, à cause de cette parole-là de Dieu, ça a changé toute ma journée. Et par la suite, ça a changé ma vie. Mais comment ça? Comment est-ce que je pouvais changer une vie en dedans d'une minute? Comment est-ce que je pouvais faire ça? C'était parce que ce n'était pas ma parole, c'était une promesse de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vivante. Puis c'est ça, là. Si vous pouvez saisir une vérité de la parole de Dieu pour changer votre vie, faites-le. Si vous avez un problème peut-être financier et vous croyez, hey, mes parents ont toujours été endettés, c'est mon héritage dans la vie d'être comme ça, vous pouvez changer votre façon de penser et dire, savez-vous, bon, mes parents ont été comme ça, mais moi maintenant j'ai un autre héritage. J'ai l'héritage d'être un enfant de Dieu. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Et moi, je vais être différent. Je vais vivre d'une façon différente parce que la parole de Dieu dit autrement sur ma vie. Et il faut vraiment arriver à cette place-là. Si vous voulez marcher comme un chrétien régulier, marcher et parler comme les chrétiens réguliers. On peut se promener dans les églises, on peut jaser avec les gens et on va entendre parler les gens, comment ils s'attendent de vivre une vie normale. Moi, je ne m'attends pas de vivre une vie normale. Et à date, c'est assez différente, ma vie. Hein, est différente. Mais vous aussi, Dieu veut faire de votre vie quelque chose de différent. Mais il faut se qualifier d'une certaine façon, il faut être différent soi-même. On doit changer notre façon de penser, on doit changer notre façon de parler. Et comme on se remplit toujours de la parole de Dieu, mais là, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? On voit vraiment Dieu mettre des choses en ordre dans notre vie, on voit des changements. Mais c'est toujours avec la conviction, comme Abraham était pleinement persuadé que la promesse de Dieu à son égard, c'était vrai. Nous aussi, on doit être pleinement persuadés. Et comment est-ce qu'on peut arriver à cette place d'être vraiment, vraiment persuadé? C'est en se remplissant constamment de la parole de Dieu. Parce que Satan travaille 24 heures sur 24 à vous décourager, à vous démotiver, à péter votre ballon, comme on dit en québécois. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est vous enlever de la course. Savez-vous ça? L'ennemi veut vous enlever de la course, il veut vous balayer et puis vous dire « c'est fini ». Mais Dieu, lui, il veut vous élever, il veut vous bâtir, il veut vous faire réaliser qu'il y a toute une dimension de gloire de disponible pour vous. Il faut y croire. Et moi, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que récemment, j'ai écouté un DVD, je ne sais pas s'il y avait peut-être 15 ou 20 témoignages, mais il y avait plein de témoignages, des gens qui avaient saisi des principes par la foi, et même si c'était impossible, même si tout le monde leur disait « c'est impossible », eux ont osé croire la parole de Dieu, et à cause, ils ont cru. Ils ont vu le miracle s'accomplir. C'est possible pour nous aujourd'hui. C'est possible pour les Québécois également. C'est possible pour les francophones. Le croyez-vous ce matin? On peut écouter toutes sortes d'affaires sur Dieu, mais si on ne le reçoit pas dans nos cœurs, on va passer à côté. On peut entendre parler de la gloire de Dieu, on peut entendre parler des miracles de la part de Dieu, mais si on est des auditeurs oublieux, on ne le vivra pas. Et moi, mon cœur est brisé pour un Québec sans ce message-là. Des gens qui pensent que vivre la vie chrétienne, c'est prout, 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 comme j'ai entendu à la radio l'autre fois. Il y a tellement de chrétiens qui pensent que la vie chrétienne, c'est prout, prout, prout. Mais ce n'est pas ça. La vie chrétienne, là, quand on saisit le message de foi, ça vient nous allumer, ça vient nous remplir notre esprit de foi et d'attente. On peut s'attendre à des grandes choses de la part de Dieu, mais il faut être activement engagé dans notre foi. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Si on est activement engagé, on s'attend que Dieu va faire des choses, mais Dieu va faire des choses. Dieu va honorer notre foi. Peu importe le problème, peu importe le défi dans notre vie. Amen. Il faut se remplir de la parole. La parole, c'est notre source de vie. Dans Matthieu 4:4, ça dit, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça notre nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Comme on a besoin de quelque chose dans le monde, on peut courir à droite et à gauche et essayer de trouver la réponse à quelque part, aller chercher la bonne sorte de vitamine. C'est correct de prendre des vitamines. Mais si on a toujours nos regards partout, notre focus partout, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on oublie notre vraie nourriture, la vraie source de vie. La vraie source de vie pour nous, les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si on retourne, on a un problème. Je ne sais pas, vous avez un problème familial. Vous allez dans la parole, vous trouvez la recette pour ce problème-là. Et là, vous marchez dans la paix. Vous savez, des fois, même dans nos familles, on peut avoir des problèmes, des fois des chicanes. Je ne sais pas si parmi vous, là, vous n'avez déjà vécu des chicanes de famille. Des fois, c'est possible. Mais la parole de Dieu nous dit d'essayer de vivre dans la paix avec tout le monde quand c'est possible. N'est-ce pas? Alors, des fois, là, vous avez raison. Quelqu'un vous a blessé. Quelqu'un vous a fait quelque chose de mauvais. Mais si la parole de Dieu, c'est vraiment la source pour votre vie, vous allez vous conformer aussi à la parole de Dieu. Et s'il y a quelqu'un dans votre famille qui vous a fait quelque chose de blessant, vous êtes blessé par cette chose-là, naturellement, vous pourrez dire, vous savez, moi, je vais réagir d'une façon humaine et puis là, je vais rouspéter, je vais lui dire ma façon de penser. Et des fois, ça sera même justifié. On pourrait dire, j'ai raison de le faire, j'ai raison, elle a mal agi. Mais vous savez, vous pouvez choisir de faire cette chose-là et finalement, vous allez marcher en dehors du cercle de la bénédiction de Dieu parce que vous marchez gouverné par vos émotions et par un esprit charnel. Mais si vous décidez, la parole de Dieu, c'est ma source de vie, c'est la façon que je vais vivre, c'est la façon que je vais marcher à tous les jours, et Dieu me dit de choisir la paix. Alors la personne qui m'a blessé, c'est vrai, j'ai été blessé, je crois que c'est vrai que je suis victime dans la situation, mais malgré tout ça, je choisis de fermer ma bouche, je choisis de ne pas en parler, je choisis d'acheter la paix au lieu de me rendre justice. Et là, vous choisissez la paix et par la suite, la personne réalise par elle-même. Si vous priez pour la personne, le Seigneur dispose favorablement la personne à votre égard et la personne vient vous voir. « Sais-tu, je me suis trompé, j'ai mal agi. Tu me pardonnerais-tu? » Ça peut arriver, mais si on se chicane et puis on est charnel et tout ça, là, qu'est-ce qui se passe? La personne ne veut même pas venir nous voir et on a fermé cette porte-là. Et là, ça crée la division dans notre famille. Il y a toutes sortes d'affaires. Vous savez, la parole de Dieu, c'est vraiment la source pour notre vie. Si on veut être heureux, si on veut marcher d'une façon heureuse, il faut se conformer à la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est vraiment la façon qu'on va vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas juste les paroles qui vont nous faire plaisir. Hein. Des fois, ça ne tente pas de marcher dans l'amour, marcher dans la paix. Des fois, ça ne tente d'être charnel et de se défendre. Mais non, on va vivre par la parole de Dieu uniquement. Et dans Hébreux 4, verset 12, il est écrit, « La parole de Dieu est vivante et efficace, opérante dans la version de Darby. » Donc, elle opère, la Bible ou la parole de Dieu opère, plus tranchante ou pénétrante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la source pour votre vie et elle opère. Vous avez besoin de quelque chose? Allez chercher les promesses de la parole de Dieu pour votre besoin. Allez chercher le rapport de Dieu. Comme mon épouse, qu'est-ce qu'on a fait il y a 10 ans? On a décidé de croire le rapport de Dieu premièrement. Quand on croit le rapport de Dieu, les choses dans le naturel vont s'aligner avec la volonté de Dieu. Mais il faut faire le choix et réaliser, vous savez, la parole de Dieu, c'est ma source pour ma vie. Amen. Et quand on parle de la source de vie, il y a un mot très intéressant dans la parole de Dieu. Quand on lit ça dans le français, on ne réalise pas toujours, mais quand on parle de la vie éternelle dans la parole, ça nous parle de Zoé. Ce n'est pas juste une vie normale, mais Dieu nous appelle à vivre la vie Zoé. Et Zoé, c'est la vie supérieure qu'on retrouve en Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont compris que Dieu nous appelait à vivre la vie éternelle et les gens qui ont compris simplement qu'on passe de la mort à la vie et qu'un jour, quand je vais mourir, je vais me rendre au ciel. La majorité des croyants, on pourrait dire nos voisins, tout ça qui sont nés de nouveau, mais ces gens-là croient, oui, je suis sauvé, je suis en route pour le ciel, mais ça vient de s'arrêter là. Et puis, ils n'ont pas compris le forfait divin que Dieu nous donne. Mais quand on devient un enfant de Dieu, Dieu nous donne un forfait divin. Dieu nous donne tout l'héritage de ses bien-aimés. parce que Dieu, justement, nous a adoptés dans la famille divine, dans la famille royale. Puis quand on est un enfant de Dieu, on a tout un héritage qui nous appartient. Et dans le grec, ça parle Zoé, qui nous parle, cette vie éternelle-là, c'est la vie supérieure. Donc, on va vivre sur un niveau élevé, supérieur, à une place que les autres personnes ne vivent pas. Vous allez dire, bien, c'est-tu arrogant? Est-ce que c'est arrogant de croire ce que Dieu dit? Non, c'est pas arrogant, mais on est appelé à vivre cette vie élevée où on a des bénédictions que les gens n'ont pas, que les personnes que vous côtoyez n'ont pas cette révélation-là. Et même des chrétiens que vous connaissez, que vous aimez bien, qui n'ont pas la révélation, qui sont bénis. Il y a des gens qui prient toujours, « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. » Savez-vous que vous êtes déjà bénis? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin de dire, « Seigneur, bénis-moi. » Vous dites, « Merci, Seigneur, parce que je suis béni. » Merci Seigneur parce que ta bénédiction me couronne, me court après. Amen. J'ai cette vie, cette force de vie en dedans de moi, cette vie éternelle qui est en moi, cette vie supérieure qui habite en moi. C'est la vie de Dieu qui m'habite. Dans Jean 7, 38, ça dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Des fleuves d'eau vive, la présence de Dieu qui vous anime, qui vous dirige, qui vous conduit dans votre vie. C'est ça que Dieu veut pour nous, qu'on soit rempli de cette force, qu'on soit animé de cette vie Zoé. Alors si vous parlez aujourd'hui de cette vie Zoé entre vous, vous allez savoir de quoi on parle, d'une vie surnaturelle dans laquelle Dieu nous appelle à vivre. Amen. Amen. Une autre chose également, nous avons un privilège quand on a reçu cette révélation-là, parmi nous, ceux qui croient, qu'est-ce que je viens de vous dire? On a un ADN. Qu'est-ce que je peux vous dire que j'ai trouvé merveilleux? C'est quand mon épouse était chez le médecin la semaine passée, au début de la semaine. Mais là, on est dimanche, c'est une nouvelle semaine qui vient de commencer, mais la semaine passée d'abord. Comme on était là, ma femme a vraiment ressenti la présence de Dieu sur elle à l'hôpital. Elle s'apprêtait à se faire examiner. Et en tout cas, après même l'expliquer en ces mots, je ne sais pas, t'aimerais-tu mieux l'expliquer ou tu veux que je continue? Je vais le dire peut-être pas correctement, mais en tout cas, elle me disait que comme elle était là, elle se préparait à se faire examiner, tout ça, elle entendait la voix d'une prédicatrice qu'elle aime beaucoup, qui récitait un verset de la parole de Dieu, comment elle était couronnée de la bonté de Dieu, comment Dieu était toujours fidèle et bon. For his goodness endures forever. Son amour et sa miséricorde durent à toujours. Et c'est ça qu'elle entendait dans sa tête. Puis elle était comme dans une bulle de cette vie Zoé-là, était dans une bulle de la présence de Dieu surnaturelle, puis était là en train d'attendre de se faire examiner, puis était tellement bénie dans cette bulle-là que quand le médecin est venu la voir, elle a ouvert ses yeux, puis elle avait les yeux pleins d'eau. Là, il pensait qu'elle était énervée ou elle avait peur, mais c'était pas ça, c'est qu'elle était tellement réconfortée par la présence de Dieu, même à l'hôpital. C'est merveilleux. Dans des moments comme ça, où ça ne nous tente pas d'être à l'hôpital, hein, vraiment, on peut l'avouer, c'est pas le fun d'aller à l'hôpital, mais d'être dans une place comme ça, que même si on est à l'hôpital, on peut se retrouver dans la présence de Dieu. Et là, être comme visité par ces eaux vives-là. Et c'est ça qu'elle a vécu, Mathilde. Et par la suite, c'était ce bon rapport-là qu'on a eu pour la première fois en 10 ans. Mais je peux vous dire, ça a été une lutte. Ça fait 10 ans qu'on croit. Il y a des gens qui croient que Dieu fait juste des miracles et si après une seule prière qu'on n'a pas vécu le miracle, ben Dieu veut que tu sois malade finalement. Ça vient de s'éteindre. Non, mais c'est vrai. On va parler avec des chrétiens. Ah, ben on a prié, ça n'a pas marché. Ça fait que Dieu veut que tu sois malade. Endure-le. Dieu t'enseigne présentement. Dieu est en train de te former et te façonner. Il y a toutes sortes de pensées comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On dit non. Dieu a dit, je veux guérir toutes tes maladies dans le psaume 103. On s'accroche à ça, on croit ça, on le décrète de notre bouche. Ma femme, ça fait des années, elle étudie ça, elle écoute constamment des versets de guérison. Et il y a une guérison progressive qui s'installe. Mais c'est une lutte, c'est une marche par la foi, le juste vivra par la foi. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est à l'hôpital, la présence de Dieu descend, elle est bénie, il y a le bon rapport. Et on s'attend à plus encore de Dieu, on s'attend à d'autres meilleurs rapports avec Dieu. Amen. Mais c'est une marche par la foi. Et on a ce privilège d'avoir cette révélation-là et le privilège également d'avoir des gens qui prient pour nous. Quand on était là, je sais qu'on avait Guy et Chantal qui s'est engagé de prier pour Mathilde cette journée-là. Et possiblement, c'est à cause de leur prière qu'elle a été bénie comme ça. On ne sait pas comment Dieu travaille toujours, mais on sait qu'ensemble, comme on prie, on fait cette équipe. Aussi, vous savez, quand on vit de quoi de difficile, qu'est-ce qui est merveilleux de faire partie d'un corps qui croit que Dieu est bon? Savez-vous, l'autre chose qui est bonne, c'est qu'on a une foi non contestée. Une foi non contestée. Parce que des fois, on vit des épreuves et si, vous savez, on n'a pas la liberté de partager ce qu'on vit, parce qu'on a peur que les gens vont nous décourager davantage, des fois, on ne parlera pas. Justement, je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait, j'ai vécu tout un défi, mais je ne pouvais pas en parler à personne parce que je savais que les gens n'étaient pas pour m'encourager dans la foi. Au contraire, ils étaient pour me décourager. Puis je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette place-là où vous aviez besoin d'être encouragé, où vous aviez besoin des gens pour venir à côté de vous et dire, « Hey, je te comprends, mais la parole de Dieu dit ça et on va prier ensemble, on va s'attendre à des grandes choses de la part de Dieu. » Des fois, on n'est pas fortuné comme ça, on n'a pas les gens autour de nous pour nous appuyer. Des fois, les gens vont justement dire, « Hey, Dieu est en train de te raffiner. » Puis là, finalement, c'est pas ça. Pas en tout, c'est le diable qui nous attaquait et les gens ne discernaient pas ça. Vous savez, mais qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est qu'on peut être appuyé dans notre foi. Parmi nous, les gens qui croient ici dans la bonté de Dieu, on peut être appuyé. Puis vous pouvez avoir la sécurité dans votre cœur que si jamais vous passez à travers une épreuve, on va être là pour vous backer, on va être là pour se tenir avec vous et croire que Dieu va faire des grandes choses. Et même, je crois, ça, c'est là quelques semaines, vous savez, comme je vous ai dit, Mathilde, pendant des années, elle a écouté des enseignements, des choses de guérison. Et elle a accepté d'enregistrer les versets de la parole de Dieu en français. On a fait un CD, il est en production présentement, Dominique est en train de travailler là-dessus, mais tous les versets de la parole de Dieu sur la guérison, ou en tout cas pas toutes, ça serait beaucoup, mais plusieurs versets sur la guérison divine, bien Mathilde les a enregistrés l'autre jour, et puis pendant qu'elle enregistrait ça, qu'est-ce qui était assez particulier, c'est que le téléphone a sonné, et c'était le ministère de Kenneth Copeland qui appelait, et eux, ils ont comme... pas politique, mais ils ont l'habitude, qu'est-ce qu'ils font des fois? Ils vont appeler leur partenaire et puis vont demander aux gens, est-ce que je peux prier pour vous? Et ça s'est adonné que cette journée-là, quand Mathilde est en train d'enregistrer son CD, le téléphone a sonné et c'était quelqu'un de ce ministère-là, du ministère de Kenneth Copeland, qui dit, « Hello, j'appelle de la part de Kenneth et Gloria, est-ce que je peux prier pour vous aujourd'hui? » Puis j'ai dit, « Hey, c'est spécial parce que ma femme, présentement, est en train d'enregistrer un disque. En ce moment, pendant qu'on se parle, est en train de l'enregistrer, un disque sur la guérison divine. J'ai dit, pouvez-vous prier pour elle? Elle a dit, absolument. Alors, on s'est mis en accord, on a prié pour l'enregistrement de ces versets-là, que l'onction de Dieu soit vraiment dessus. Et moi, quand j'ai vu par ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial, qu'après 10 ans d'avoir bûché dans la foi pour voir de quoi se produire, c'était comme le clin d'œil de Dieu qui disait, tu sais, toutes les choses, tous les efforts que tu as mis, tout le temps que tu as investi pour te remplir de la parole de Dieu, bien là, j'envoie mon sceau de bénédiction. Puis c'est pas que Kenneth et Gloria ont besoin de donner leur sceau, mais j'ai vu ça comme Dieu. C'était comme Dieu qui me donnait un clin d'œil. Hey, ça fait 10 ans que tu l'écoutes, Gloria, elle t'appelle la même journée. Une porte-parole t'appelle la même journée pour te dire, hey, je prie pour toi. Moi, j'ai vu ça comme un clin d'œil de Dieu. Ça, c'est un privilège qu'on a. Quand on croit vraiment que Dieu est bon, quand on est persuadé dans notre foi que Dieu veut faire des grandes choses et que la parole de Dieu est toujours vraie malgré les circonstances. Amen. Donc, c'est une foi non contestée. Si vous vivez des épreuves et vous venez me partager ça, moi, là, en tout cas, je peux m'engager envers vous que je vais vous encourager à croire Dieu. Il y a quelqu'un, une fois, qui est venu à mon bureau, il me disait, il m'a raconté son histoire, il dit, Joël, il dit, ma femme m'a quitté, mais moi, Dieu m'a dit qu'il était pour revenir. Et puis, il dit, d'autres pasteurs m'ont tout dit, oublie l'air, refais ta vie, tout ça. Il dit, mais moi, j'ai la conviction, je suis persuadé dans mon cœur qu'elle va revenir. Qu'est-ce que t'en dis, Joël? J'ai dit, ben, je suis qui, moi, pour te dire autrement? Si Dieu t'a donné la conviction dans ton cœur qu'elle va revenir, j'ai dit, je vais me mettre en accord avec ta prière, je vais prier pour toi. Parce qu'il n'était pas divorcé, il était juste séparé. J'ai dit, je me mets en accord avec toi. Moi, je vais vous encourager. Je ne pourrais jamais dire, « Hey, tu as la foi pour de quoi? » On va mettre un peu de doute, on va détruire ça. On va anéantir cette foi-là. Non, ce n'est pas ma job, moi, de détruire la foi des gens. Des fois, les gens pensent qu'il faut mettre la personne, vous la ramener sur terre. Non, je ne suis pas appelé à vous ramener sur terre. Je suis là pour vous élever à croire plus. Croire plus. Mais il y a des gens qui vont dire, « Vous croyez trop. » Je sais. Je sais, on se fait critiquer. Des fois, on croit trop. C'est trop la foi. Mais c'est bien mieux croire. Moi, je ne sais pas comment on peut trop croire, mais supposément, c'est possible. Mais moi, je crois trop. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, ça dit, « Si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules, pas pour ceux qui croient trop. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce Dieu de ce monde aveugle l'esprit des gens pour pas qu'ils puissent voir la gloire de l'Évangile. Ça, c'est un travail. Toute l'armée spirituelle de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi, sa job, c'est d'aveugler les gens pour pas qu'ils voient la gloire de Dieu, pour pas qu'ils voient la splendeur de l'Évangile. Vous savez, le mot Évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle qu'on prêche, c'est souvent comme un Dieu est méchant. Savez-vous ça? Souvent, c'est ça. On parle d'un Évangile, c'est super, non intéressant. On entend le message, puis ça nous repousse. On dit, je ne veux pas ça dans ma vie, je suis en masse malheureux comme ça. Mais non, ça c'est le travail de l'ennemi qui veut aveugler les gens pour pas qu'ils voient le vrai Dieu de la parole, pour pas qu'ils entendent le vrai message de la parole de Dieu. Mais le message de la parole de Dieu, c'est justement ça, c'est un bon message, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si on veut marcher comme une église en santé, une église dans la foi, une église où chaque personne est persuadée de la volonté de Dieu pour leur vie, on doit arriver à la place où on pense pareil. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours la même opinion sur tous les détails de la vie. Je n'étais pas en train de dire qu'on devient des robots, mais on devient tous unis à la pensée de Christ. On devient tous unis. Si Dieu a dit quelque chose, on croit toutes la même affaire. On croit tous la même pensée. Si ma femme, par exemple, croit à la guérison divine pour sa vie, que personne n'arrive et dit, « Ben moi, je pense que Dieu veut que tu sois malade. » Ça, c'est contraire à ce qu'on veut bâtir ici. Dans Romains 15, versets 5 à 6, ça dit, « Or le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus. » Voyez-vous, c'est là, c'est ça qui nous unit, selon Christ Jésus. « Afin d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc vos pensées, vos sentiments, qu'on soit d'un commun accord, qu'on soit tous d'accord avec ce que Dieu dit. Pourquoi s'obstiner? Pourquoi dire, ben Dieu a dit ça, mais? Hein? Pourquoi toujours ajouter le mais à ce que Dieu dit? Pourquoi ne pas toujours dire, Dieu le dit, amen, j'y crois, amen. Et toi, tu as ce problème-là et Dieu dit qu'il y a la solution, amen, moi je crois la solution avec toi. Est-ce qu'on peut tous être d'accord qu'on va dire amen? Être complètement persuadé? Dans Philippiens 2:2, ça dit, « Rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. » Il faut être unis, ramener toujours nos pensées à la pensée de Christ, ce que Dieu a dit sur un certain sujet. Amen. Et qu'est-ce qui me réjouit de ce temps-ci, si j'entends des témoignages? Quelqu'un qui n'avait pas d'emploi, qui a un emploi. Quelqu'un qui n'avait pas d'auto va hériter d'un auto. Hein, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on voit à la main de Dieu. Mais on ose croire, on ose obéir, même si ça ne fait pas de sens. Hein? Dieu ne nous demande pas toujours de faire des choses qui sont raisonnables. Dieu nous demande d'obéir. Vous savez, Abraham et Sarah, un petit couple vers l'âge de 100 ans, Abraham avait 100 ans, est-ce que c'était raisonnable de s'attendre d'avoir des enfants? On dirait, ben, c'est un petit peu vieux, commencer une famille. Mais pourtant, avec Dieu, c'était raisonnable. La raison de Dieu et la raison des hommes, ce n'est pas pareil. Alors, il faut croire Dieu en tout temps. Donc, on a ce privilège d'être, comme j'ai dit l'autre fois, simple d'esprit. Oser croire Dieu. Et une des choses, c'est tellement un message merveilleux qu'il y a des gens même qui sont au loin qui désirent ce message-là. Je peux vous dire, on est contacté par des gens dans le ministère qui veulent s'associer à notre ministère. Et moi, des fois, je dis à mon épouse, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent s'associer à notre église, parce que j'ai dit, on est en train de démarrer de quoi? J'ai dit, donner une chance aux coureurs, parce qu'ils me contactent. Il y en a un pasteur en Afrique qui dit, je veux être sous votre église, je veux être sous votre ministère. Et moi, j'ai dit, ben contactez l'église mère à Calgary, en Alberta. J'ai dit, on est une nouvelle église. Même lui, il a 4 églises. Et il était déjà affilié avec Victory, mais il dit, Il dit, je veux être sous votre ministère. Mais j'ai dit, correct, mais j'ai dit, allez à la maison mère et jaser avec eux de vos désirs, vos projets, tout ça. Puis après, il me revient, il dit, mais vraiment, c'est avec vous qu'on va être associés. Puis ça, je ne sais pas pourquoi, mais gloire à Dieu. Mais je sais aussi, c'est parce qu'on est francophone, alors il y a des gens qui vont s'identifier avec notre message plus. Mais une des choses qui m'a béni cette semaine, et je vais vous lire ça, c'est un petit courriel qu'on a reçu du Nouveau-Brunswick. Ici, ça dit, cher pasteur Joël, que la grâce de notre Seigneur Jésus puisse t'accompagner et que ce Dieu merveilleux que nous servons puisse te bénir, toi, ta famille, ainsi que toutes les églises de la Victoire. Je me présente et j'habite au Nouveau-Brunswick, dans une petite ville majoritairement francophone. Je vous écris depuis mon ordinateur pour vous dire que nous sommes un petit groupe d'environ 10 chrétiens qui croyons que Dieu manifestera sa gloire dans notre région. Je veux également vous informer que nous n'avons aucune église chrétienne reconnue dans notre région. Toutefois, nous nous réunissons tous les dimanches à 18h pour louer Dieu et également pour écouter votre émission « Semences de la foi ». Par la foi, nous osons croire que Dieu ouvrira la première église de la Victoire ici et qu'un jour vous viendrez apporter un message de la parole de Dieu chez nous et que Dieu pourvoira pour un pasteur reconnu par votre dénomination. Ainsi, nous croyons qu'il y aura un très grand réveil. Personnellement, j'ose croire que nous vivrons à notre tour un nouveau Brunswick dans la gloire. Alors, c'est encourageant. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire par les médias, par l'Internet en ce moment? Les gens ont soif pour un message qui est biblique finalement, le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et nous, est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on a soif pour plus de Dieu? Est-ce qu'on a soif pour ce message qui change des vies? Et en terminant aujourd'hui, vous voyez un soldat qui est là. Je vous ai tout dit ça, plein de choses sur la parole de Dieu, comment la parole doit être notre source. Mais non seulement est-ce qu'on doit voir la parole comme étant notre source pour notre vie, on doit se voir également comme étant un soldat dans l'armée. Parce que l'ennemi travaille, comme je vous ai dit, constamment à détruire l'Église de Jésus-Christ. Il travaille constamment à aveugler les gens perdus pour pas qu'ils voient la gloire de l'Évangile. Et nous, on n'est pas des victimes dans tout ça. On doit arrêter de se voir comme des victimes et « Oh, le diable me fait ci, le diable fait ça ». Non, nous sommes des soldats dans l'armée du grand gagnant. Jésus, c'est celui qui est gagnant. Nous sommes les victorieux. C'est nous autres, l'Église de Jésus-Christ. C'est nous autres qui remportons le prix. Savez-vous ça? Vous lirez la fin du livre, vous lirez l'Apocalypse, et on voit c'est qui gagne. C'est Jésus qui gagne. Alors, le diable, lui, il se débat, il essaie de faire toutes sortes d'affaires, mais au bout de compte, là, c'est nous autres qui gagnent. Moi, je suis un gagnant. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est me voir comme ça et m'équiper au maximum. Dans Éphésiens chapitre 6, 11 à 17, ça dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dieu ne veut pas qu'on se couche à terre et Dieu, on va se tenir ferme contre les ruses du diable. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire. Les armes de Dieu ne vont pas se mettre à marcher et nous embarquer dessus. C'est quelque chose qu'on doit faire. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. On doit s'équiper. Quand on a le casque du salut, on a le casque de la délivrance. Ça veut dire partout où on se promène, on sait qu'on est ceux qui sont délivrés. On n'est pas ceux qui sont opprimés par Satan. On est ceux, on fait partie de cette compagnie de gens qui sont bénis. On fait partie de cette compagnie de délivrés. On marche avec l'autorité de Jésus-Christ. On est ces soldats-là. On est ceux qui sont pleinement persuadés. Mais je veux vous dire, si vous n'êtes pas pleinement persuadés de votre héritage, vous allez passer à côté. Vous allez entendre parler des belles choses. Je peux vous raconter des choses, comment vous avez l'héritage, mais à moins de l'entendre et l'entendre et l'entendre, vous n'y croirez pas. faut y croire, mais la seule façon, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, faut l'écouter la parole, faut l'écouter. Vous avez un problème financier, étudiez pas toute l'Apocalypse pendant 6 mois, lisez les versets sur les finances. Vous êtes malade dans votre corps, lisez les versets sur la guérison de Dieu, lisez constamment, remplissez-vous de la parole de Dieu, changez votre façon de penser, pensez comme Dieu, et là, ça va venir naturel. Et quelqu'un va venir vouloir vous attaquer dans votre foi, même pas, c'est même pas un désir nécessairement voulu, c'est juste quelque chose que la personne fait, mais peu importe qu'est-ce qu'elle va dire, la parole va être tellement ancrée en dedans de vous, là, que personne qui va pouvoir vous enlever de votre position. Vous allez savoir, vous allez être convaincu et vous allez recevoir l'héritage qui vous appartient. Amen. Amen. Si vous le croyez ce matin, je vais vous inviter à vous lever et je vais inviter également l'équipe de la louange. On va chanter des chants aujourd'hui. On peut remercier le Seigneur qu'on a ce privilège de le connaître comme étant ce bon Dieu. Il est littéralement bon et il n'y a rien d'impossible à Dieu. Aujourd'hui, c'est un message simple, mais il faut toujours garder notre focus sur lui. C'est ça que mon rêve était ce matin. Gardons toujours, toujours nos yeux sur lui, peu importe la circonstance, peu importe le défi dans notre vie, parce qu'il est toujours la source. Sa parole est la source pour notre vie. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.